Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue à tous nos auditeurs de Radio Présence et Radio Lapourdie pour cette émission avec notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Alors, du 5 au 10 novembre, Monseigneur, vous étiez à l'Assemblée plénière des évêques de France qui s'est déroulée à Lourdes, comme toujours. Mais il y avait quand même une nouveauté cette année puisque vous étiez accompagné de deux diocésains. Alors, de qui s'agissait-il ?
D'abord, c'est une initiative qui a été prise par le nouveau président de la Conférence des évêques de France, avec évidemment le Conseil permanent, de permettre que nous réfléchissions sur 3 ans à un grand défi missionnaire, sur lequel nous avons besoin de travailler ensemble, et en proposant que pendant une journée et demie de cette Assemblée plénière, sur ce thème, qui sera donc décliné sur 3 ans, nous invitions des diocésains, donc des fidèles du diocèse, que ce soit des laïcs, des consacrés ou des prêtres, et pour travailler dans une démarche de synodalité, hein, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire marcher ensemble avec tous les éléments du peuple de Dieu sur cet élément que nous ressaisirons nous comme évêques et que nous pourrons mettre en œuvre plus facilement dans nos diocèses parce qu'on aura eu 2 témoins de notre diocèse qui nous stimuleront, hein, avec les instances évidemment de notre diocèse, que ce soit le conseil épiscopal, le conseil prélatéral, le conseil pastoral diocésain, etc., etc., et bien la reprise et la mise en œuvre de ces questions dans nos diocèses.
Donc ce n'était pas forcément des experts en écologie.
Alors oui, parce que je précise que le défi missionnaire en question...
Oui, c'était sur l'écologie.
C'était sur la transition écologique. Il est apparu au Conseil permanent, en effet, que ce pouvait être un sujet fort, assez transversal, car à travers la sauvegarde de l'environnement, qui est souvent la porte d'entrée de cette question écologique dans le monde d'aujourd'hui, et qui mobilise quand même beaucoup de personnes, et en particulier des jeunes, hein, qui sont d'ailleurs assez prophètes, on pourrait dire, parce qu'ils changent des modes de vie, ils sont un peu en rupture par rapport à ce monde de consommation et de production dans lequel nous sommes embarqués, et donc ils sont un peu des lanceurs d'alerte, quoi. Et à partir de cette question de la sauvegarde de l'environnement qui rassemble tout le monde, eh bien, il y a des questions anthropologiques, il y a des questions bioéthiques, il y a des questions sociales aussi qui sont en jeu. Et donc la question pour nous, c'est évidemment pas d'être des experts en écologie, de constituer une ONG environnementale, de constituer un parti écologiste bis, c'est pas le propre de l'Église, c'est pas sa mission, mais en étant bien au fait de ces réalités humaines et de la manière dont elles inquiètent et elles préoccupent nos contemporains, eh bien savoir comment l'Église a une parole de salut et comment est-ce qu'elle va trouver là l'opportunité de proclamer l'Évangile.
Donc c'est une question intéressante. Il y avait l'abbé de Landerre.
Ah voilà, j'avais pris un peu rapidement parce que ça s'est fait assez vite. Je m'étais dit, il faut prendre 2 personnes qui, par leur fonction et leur mission actuelle, peuvent nous aider à réfléchir à la mission dans le diocèse. Alors j'ai pris le nouveau directeur de l'enseignement catholique, Monsieur Vincent Destet, parce que l'enseignement catholique est une grande réalité de notre diocèse et un lieu phare d'évangélisation, hein, de la jeunesse par l'éducation. Et en plus parce que lui, comme directeur adjoint de l'enseignement catholique de Lyon, avait été la cheville ouvrière des assises Laudato Si qu'ils avaient menées dans l'enseignement catholique de Lyon. Bon. Et donc il était déjà un peu préparé à cette question. Et voilà la fibre éducative, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'établissements de notre diocèse qui se sont préoccupés par la question écologique, qui sont entrés dans la dynamique du label Église verte. Et donc, c'était une bonne occasion de mouiller l'enseignement catholique. Et puis, j'ai pris l'abbé de Landerre, tout simplement parce que d'abord, c'est vrai qu'il est curé dans le rural, avec un grand désir de conversion pastorale, mais ça, c'est une chose... c'est pas la première chose, c'est qu'il est le référent du chemin de Saint-Jacques, la pastorale du chemin de Saint-Jacques, dans le diocèse, qui a aussi une grande importance, puisque toutes les routes se croisent dans notre diocèse de Bayonne avant de passer en Espagne. Et donc, il est assez intéressé par cette question. Il accompagne chaque année un groupe de SDF à l'initiative d'un gars de Nice qui a comme fruit de beaucoup de réintégration dans la société, sur le chemin de Saint-Jacques, donc chaque année. Et donc je me dis, le chemin de Saint-Jacques est aussi un chemin profondément marqué par l'écologie intégrale, quoi.
Donc pendant ce jour et demi où vous avez été accompagné de ces deux baptisés, vous avez réfléchi donc sur ces sujets d'écologie. Vous avez eu 6 témoins, je crois, donc vous le disiez, des jeunes qui ont témoigné de conversion écologique. C'est et ça. Puis 2 experts aussi. Est-ce que vous, Mgr Hayet, ça vous a interpellé, j'imagine?
Oui.
Ça vous a fait changer aussi par rapport à toutes ces questions?
Alors, c'est vrai que je suis quand même un peu sensibilisé à cette question. Et puis j'ai lu Laudato si, évidemment, et j'étais très frappé de voir que cette encyclique qui recueille aussi tout l'enseignement du magistère sur ces questions, en particulier de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qu'on appelait, comme vous savez, les papes verts. Mais elle a aussi, grâce à la popularité du pape François, c'est une encyclique qui a eu un écho très large, bien au-delà des frontières de l'Église. Et donc, j'étais quand même bien interpellé par ça. Mais j'étais peut-être pas assez sensibilisé quand même à la question.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un nouveau converti à l'écologie, hein?
Alors, c'est pas une conversion fulgurante, donc je ne sais pas si je peux appeler ça une conversion absolue, mais j'étais quand même interpellé et bousculé. On dit déplacé aujourd'hui, hein, c'est un mot très à la mode, par ces silenceurs d'alerte que nous avons entendus, qui avaient été choisis pas forcément dans le bocal catholique. Le premier d'ailleurs qui m'a le plus interpellé, c'est un gars qui a commencé son exposé en disant « j'ai divorcé avec l'Église depuis 20 ans, parce qu'on n'aborde pas les vrais problèmes dans les prédications, etc. » Bon, très bien. Donc ça m'a... Et puis, en entendant leur discours de ces jeunes assez surdiplômés, qui se sont convertis à l'écologie, ou bien à partir de leur foi catholique, chrétienne, ou bien à partir de leur engagement humain et de leur solidarité avec les réalités qu'ils traversent, ça m'a en effet déplacé. Je me dis, mais au fait, l'écologie, c'est pas seulement une lubie ou une mode, ça concerne aussi notre place dans la création. Et donc, ça m'interpelle, c'est vrai, dans mes modes de vie. Donc je l'ai dit, d'ailleurs, dans l'après-midi, quand j'ai participé au débat, avec justement ce Maxime qui avait été le plus bousculant, et tout en disant, je veux bien être coupable et me sentir coupable. La culpabilité, c'est un baromètre de la conscience, mais j'ai besoin d'un sauveur. Et je pense que si l'humanité, avec ses modes de vie, de production, de consommation, a pris la place de Dieu avec ses progrès techniques et scientifiques et finit par détruire la création parce que précisément elle transgresse les lois de la nature édictées par le Créateur, je me dis que la recherche de solutions à cette crise ne peut pas être seulement humaine, parce que ce serait, à l'inverse, prendre aussi la place de Dieu. Et moi, j'ai besoin d'un sauveur. Je pense que les dysfonctionnements écologiques d'aujourd'hui viennent d'une blessure originelle qui s'appelle le péché, qui est en moi, qui est en nous, chacun de nous. Et j'ai besoin d'un sauveur qui soit capable d'aller me guérir jusque-là pour, à travers le changement de mes modes de vie, espérer changer un peu quelque chose dans le monde.
Qu'est-ce que vous pensez du label Église verte? Est-ce que c'est un gadget pour Bobo, comme vous l'a dit une journaliste?
Alors, je ne sais pas si c'est un gadget pour Bobo. Je pense que c'est de toute façon en deçà de la question. Ça a l'avantage d'alerter, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas se contenter de se culpabiliser davantage, parce que j'ai crainte que quelquefois, ce soit une manière facile de sensibiliser par la culpabilisation et en se disant à bon compte, parce que j'ai pas dépassé ce taux-là d'empreinte carbone, je peux avoir bonne conscience. C'est, à mon avis, plus profond que ça. Alors, il faut aller plus loin, à mon avis, que le label Église verte.
Qu'est-ce que vous allez proposer dans le diocèse, dans ce sens, de la sauvegarde de la création, de la
Alors
transformation?
Justement la dernière séquence de notre travail avec les diocésains, là, consistait à concrètement dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors nous, on s'est dit que dans un premier temps, on allait profiter de ces témoins que nous avons entendus pour sensibiliser un peu les diocésains à travers un événement, un petit travail d'information, de communication, parce que je crois que ce serait déjà une bonne chose. Et on s'était dit qu'on pourrait faire venir l'un de ces lanceurs d'alerte, le Maxime en question, parce qu'en plus il passe ses vacances dans le Pays Basque tous les ans, et parce qu'il a de la famille dans le coin. Et puis l'un des deux experts théologiens, celui qui est professeur à la faculté de Lyon, qui a bien montré que...
Pierre Revol, c'est ça ?
C'est ça, oui. Qui a bien montré, en reprenant d'ailleurs une parole de Benoît XVI, que la crise écologique, quelle qu'en soit l'ampleur, ça, il ne m'appartient pas d'avoir un jugement là-dessus, est une opportunité historique pour permettre à l'homme de mieux se situer dans la création et face au Créateur. Et donc je me suis dit, c'est vraiment notre cœur de cible à nous, hein, l'Église, d'annoncer l'Évangile. Quoi.
Radio La Pour Dire à TIA, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayet, nous continuons cette émission avec vous. Nous parlons de cette assemblée plénière à laquelle vous avez assisté du 5 au 10 novembre.
Et participé.
On l'a dit, vous étiez accompagné de deux diocésains, ensuite, donc pour les premiers jours. Ensuite, les deux diocésains sont partis. Vous avez continué vos travaux avec des sujets d'actualité forts. Donc, le premier sujet, c'était le sujet de la pédophilie.
Voilà. Donc, c'était Monsieur Jean-Marc Sauvé. À qui la Conférence des évêques de France avait confié, il y a déjà quelques mois maintenant, de constituer une commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, donc la CIAS. Donc M. Jean-Marc Sauvé, qui est, je le dis pour mémoire, mais qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État, donc est une personnalité quand même reconnue, et puis très professionnelle, évidemment. Et il s'est entouré d'experts, de professionnels, pour pouvoir avancer sur le sujet qui lui a été confié par les évêques. Je rappelle aussi que l'idée, c'est seulement de faire une enquête sur les abus sexuels dans l'Église depuis 1950, c'est-à-dire à la fois de voir quels sont les prêtres qui ont été, le nombre de victimes, le nombre de prêtres qui ont été impliqués, et puis aussi la manière dont l'Église a géré les choses depuis 1950, avec évidemment l'évolution que l'on connaît, puisque depuis les années 2000, l'Église a quand même pris conscience du problème, et progressivement toujours plus. On se rappelle en 2016 la constitution d'une commission Christnacht, confiée à Christian Christnacht, pour nous aider à recaser des prêtres qui ont été jugés, qui ont purgé leur peine, etc., s'il y a lieu. Et puis un certain nombre de dispositions aussi que nous avions prises à titre de prévention aussi, et à titre de collaboration avec la justice. Ce point d'étape a donné donc lieu à une conférence qui nous a été faite par Monsieur Sauvé et qui nous a dit où ils en étaient. Alors jusqu'à présent, jusqu'à l'assemblée plénière de novembre, ils avaient reçu, après avoir fait un appel à témoignages un peu généralisé dans les diocèses, 2800 appels ou contacts, dont seulement 600-800 avaient accepté, avec des victimes. Donc 600-800 avaient accepté, non seulement de rencontrer des membres de la commission, mais même de répondre de manière détaillée à un questionnaire pour pouvoir prendre la mesure de l'ampleur des choses et de la manière dont on avait, encore une fois, traité les affaires. Donc, pour lui, évidemment, c'était en deçà de la réalité. D'ailleurs, il a préconisé un nouvel appel à témoignage. Donc, on a distribué dans les paroisses de nouveaux tracts à cet effet. Et depuis l'Assemblée plénière, où il y a eu quand même aussi une médiatisation de l'affaire, parce que je crois que les médias, d'ailleurs, ont surtout retenu ce qui s'était passé autour des questions de pédocriminalité dans l'Église, je crois qu'ils sont passés de 2800 à 3400, donc ça veut dire qu'il y a eu à nouveau un boom
de
témoignages. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'aller dans les régions pour interpeller et permettre la parole de ceux qui n'oseraient pas encore parler. C'est aussi d'expurger les archives. Alors nous-mêmes, nous avons, les évêques, eu un questionnaire à remplir et à retourner à la commission, qui reste évidemment anonyme, sur les cas de prêtres ou de victimes qui sont dans notre diocèse. Donc moi, j'ai fait expurger par le chancelier l'ensemble de nos archives concernant les prêtres, pour découvrir d'ailleurs que pour l'instant, il y a 11 prêtres qui, sur 70 ans, qui sont concernés, pour lesquels on a quelque chose, dont 8 grâce aux archives et 3 pour lesquels il n'y avait rien dans les archives, mais qui nous ont été fait connaître, dont 2 des 3 sont morts depuis longtemps, par la commission, la cellule d'écoute que nous avions mise en place il y a 3 ans. Voilà, et puis ils vont eux-mêmes venir sonder nos archives en choisissant, évidemment, en faisant des sondages pas partout, mais dans certaines grandes villes, ont-ils dit. Et ils essaieront aussi de sonder les archives départementales pour pouvoir avancer dans ce qu'ils ont, dans l'analyse qu'ils sont censés faire. Ce qui nous a été dit aussi, c'est qu'il n'est pas question de... Pour eux, c'est une enquête qu'ils font, qui sera remise pour que nous prenions des dispositions. Peut-être nous donneront-ils des conseils et des préconisations. Mais en tout cas, on restera complètement dans l'anonymat. Pas question de donner les noms des prêtres, ni les noms des victimes, ni les noms des évêques qui n'ont pas bien fait leur boulot. Pas comme à Pennsylvanie, où c'est devenu une espèce de médiatisation à outrance.
Mais le travail donc avec la commission Sauvé se passe bien, parce qu'il pouvait y avoir une certaine méfiance, c'est une commission indépendante, vous ne vous sentez pas
Non, pas du tout, il reste très indépendant.
Par rapport à eux,
Non, en fait non, moi j'étais bien impressionné par la l'attitude, la posture de M. Sauvé, très professionnel, très, très à distance, pas du tout dans la surenchère, avec un vrai désir d'objectivité, et certainement pas dans une attitude anti-cléricale. Ça, ça me paraît assez évident.
Alors, il y aura aussi un geste financier.
Voilà. Alors, la deuxième chose qui a été préconisée entre nous, alors ça, c'est en dehors de la commission Sauvé, parce qu'il y a des commissions... Il y a une commission épiscopale qui est chargée de la prévention de la pédophilie et de l'accompagnement aussi des victimes au sein de notre institution ecclésiale, avec des groupes de travail, dont un qui était chargé, avec des victimes d'ailleurs aussi, qu'on avait entendu à une précédente assemblée plénière, et bien de déterminer une somme forfaitaire qui serait un geste de reconnaissance de la souffrance des victimes. Alors, il ne s'agit pas d'une indemnité, on le comprend bien, parce qu'une indemnité, on entre dans le langage et la technique judiciaire. Or, ça, c'est le fait de la justice. Il n'y a qu'un juge qui peut décider du montant d'une indemnité. Et si indemnité doit y avoir, ça concerne surtout les victimes pour lesquels il n'y a jamais eu de jugement, précisément ou bien parce que c'est prescrit, ou bien parce qu'ils ont parlé trop tard et que les prédateurs sont morts. Mais c'est une manière de dire, on reconnaît, l'Église reconnaît comme votre souffrance, et puis elle reconnaît aussi, non pas une responsabilité collective, parce qu'il n'y a qu'une personne qui a soif de ses actes, en l'occurrence le prêtre qui a fauté, mais il peut y avoir eu des négligences, des dysfonctionnements dans notre manière de gérer les choses, sans mettre le doigt sur telle ou telle personne hein, parmi les évêques, qui peut nous conduire à dire, l'Église reconnaît aussi qu'il y a peut-être eu quand même des manques d'attention et de conscience de la souffrance. Et donc, à travers cette somme forfaitaire, dont le montant n'a pas encore été déterminé, qui ne sera évidemment pas, qui ne sera pas proportionné au mal, hein, parce que c'est encore une fois un geste de reconnaissance, ce n'est pas une indemnité de justice. Et donc il faudra constituer ce que les gens n'ont pas forcément bien compris dans le grand public, mais il n'est pas question d'aller demander au diocèse sur ses propres ressources, de donner cette somme forfaitaire. Il s'agit de faire un fonds de dotation national qui sera abondé par des dons volontaires, à commencer par les évêques, les prêtres, les diacres, et puis les fidèles qui le voudront bien. Et c'est dans ce fonds de dotation que l'on puisera pour proposer cette somme forfaitaire, qui ne sera pas forcément demandée par tous, mais on reprendra contact, nous les évêques, avec les victimes que nous connaissons, pour leur proposer cette somme forfaitaire.
Quels sont les autres sujets, plus rapidement, que vous avez abordés lors de cette assemblée plénière des évêques
à Londres ? Il y a les sujets statutaires comme le budget, parce que là aussi c'est un coût. Il faut savoir que la commission SIAS indépendante a besoin de moyens, et c'est donc l'épiscopat, c'est la conférence épiscopale qui paye, donc c'est les diocèses. Donc on a voté une participation de tous les diocèses à hauteur de nos revenus, pour, en plus de ce que nous donnons déjà pour le fonctionnement de la conférence évêque de France et ses services, il a fallu voter donc je pense qu'on va donner aussi de l'argent pour la commission SIAS, pas pour les sommes forfaitaires. Les autres sujets, ça a été la ratio nationalis, le programme de formation sacerdotale dont on a eu la version romaine il y a déjà 2 ans.
Donc c'est la formation dans les séminaires.
Le programme de formation des séminaires. On est appelé à donner une version adaptée à notre pays. Donc on a discuté un petit peu des maisons de formation, des séminaires, de cette ratio dont on aura bientôt un texte cible et qu'on sera appelé à amender pour la voter normalement dans les deux prochaines assemblées plénières.
Et puis vous préparez des visites ad limina, je crois.
Alors on a
préparé,
voilà, on a préparé aussi cette visite ad limina,
qui donc est, visite au Saint-Père.
Voilà, visite au tombeau de Pierre et Paul, comme on le sait, des apôtres, et à l'occasion donc rencontre avec le Saint-Père et les dicastères, c'est-à-dire les organes de gouvernement central de l'Église, pour rendre compte de notre mission pastorale. Donc on a un rapport à remettre à Rome via l'annonciature avant la fin du mois de décembre. Et nos visites ad limina pour la France se passeront au mois de mars, donc en trois grands groupes. Nous sommes le grand groupe du Grand Ouest de la France, donc province de Bordeaux, de Poitiers, de Tours, de Rennes et de Rouen. Nous sommes une trentaine d'évêques qui allons accomplir cette visite ad limina, quant à nous, du 9 au 14 mars. Et enfin, il y a eu la nouvelle traduction du missel romain, hein, qui a été confirmé par Rome après pas mal d'allers-retours, pas mal de travail. Vous vous rappelez que c'était Jean-Paul II qui avait demandé que les traductions langue vernaculaire du missel romain, dont l'édition typique est évidemment en latin, soient plus fidèles au texte latin. Le pape François, pour débloquer une situation qui n'avançait pas trop, a demandé que ce soit non seulement fidèle au latin, mais que ça puisse quand même être compréhensible par les fidèles, et puis eu égard aussi au génie de la langue, l'attention à la langue dans laquelle on traduit, parce que ça ne peut pas être une traduction littérale. Et donc on est arrivé à un beau compromis, un beau texte.
Le texte vous satisfait ?
Moi, il me satisfait. Oui, je trouve qu'il remet en lumière un certain nombre d'éléments qui étaient un peu banalisés dans la traduction française de 69-70, donc qui puisent davantage à la richesse de l'écriture sainte et donc un langage qui est quand même plus approprié, moins banal, hein, dans certaines formules, on pourra le voir au fur et à mesure. Et puis aussi théologiquement, il y avait une théologie du sacrifice de la messe qui est présente évidemment dans l'ordo missé en latin et qui était un peu aplatie, je dirais, et un peu vidée de sa signification dans certaines traductions, dans certains textes traduits, comme par exemple ce qu'on appelle l'orate fratres, c'est-à-dire l'invitation à entrer dans le sacrifice de la messe à la fin de l'offertoire.
Et ça sera en vigueur donc à partir de l'an
prochain ? Alors ça va être en vigueur à partir de l'avant 2020. Et on aura quelques mois pour le mettre bien en œuvre jusqu'au lundi de Pentecôte.
2021.
Donc. 2021, voilà.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque Mgr Marc Caillé. Alors, le samedi 23 novembre, vous avez lancé une invitation à tous les membres des conseils pastoraux des paroisses et aussi à ceux qui effectuent le parcours Cléophas. Quel était le but de cette journée du 23 novembre à Bayonne ?
Et aussi les mouvements et associations qui étaient invités.
Alors, l'objectif, c'était un peu de continuer notre réflexion sur les pôles missionnaires, hein, et la mise en place dans nos territoires paroissiaux de ce nouvel élan missionnaire, hein, de cette conversion pastorale et missionnaire dont le pape François nous parle en ces termes depuis son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Un peu dans la suite aussi de ce qui avait été proposé aux prêtres, dont je rappelle que 13 curés y avaient participé, ces sessions Pasteurs selon mon cœur qui avaient été organisées au niveau de la province, donc de Bordeaux, et qui s'était passé à Dax, donc il y a déjà un peu un an et demi, je pense, qui invitait les prêtres de sensibilités très différentes d'ailleurs, dans un temps très fraternel, d'échanges sur leurs pratiques à travers des moments de travaux pratiques, mais ça s'échelait sur quatre sessions, hein, cinq sessions de deux jours. Eh bien, de les inviter à cette conversion pastorale et missionnaire pour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un petit peu c'était l'objectif. Hein. Comment, pour réaliser cet objectif, eh bien, devenir davantage disciples missionnaires, hein, c'est vrai pour les prêtres, mais c'est vrai pour les fidèles. Et on avait pensé qu'en effet, les conseils pastoraux sont en général les fidèles les plus engagés autour des curés dans les paroisses, et donc de les inviter, eux, à faire une expérience. Alors, c'était évidemment un format un peu insolite qui était aussi un pari. C'était de confier à des gens qui ont l'habitude de ce genre de session Pasteur sur mon cœur et qui sont assez rompus à cette conversion pastorale missionnaire, donc en gros Alpha France et là Annuncio, qui travaillent pas mal avec les laïcs justement dans cette perspective missionnaire, et bien de venir animer une journée et de nous faire faire une expérience. Et moi, j'avais juste demandé avec le conseil épiscopal, parce qu'on avait beaucoup travaillé ça dans une session d'été avec le conseil épiscopal, on s'était dit, on va essayer, puisqu'on parle beaucoup de ces cinq essentiels, de la vie et de la mission de l'Église, eh bien, on va essayer de faire vivre une expérience autour de ces cinq essentiels. Alors, évidemment, c'est donc une... J'allais dire, c'était des travaux dirigés, quoi. Hein, c'était pas une espèce de berge espagnole à ce moment-là, où chacun arrivait avec sa conception des choses. On disait, bah, tiens, on va faire des travaux dirigés autour de cinq essentiels, à partir de ce qui se fait un peu partout, dans le congrès mission, dans beaucoup de réflexions qui se passent dans les diocèses, et on en parle souvent entre évêques, et de faire goûter cette expérience en se disant, bah, voilà, ça aura ses limites. Ça plaira ou ça plaira pas, ce qui est obligatoire, et c'est bien normal d'ailleurs, et c'est important, comme l'a dit d'ailleurs une des animatrices à la fin de la journée, en disant, ben voilà, on a eu aussi quelques remontées, par exemple, on a eu l'impression d'être manipulé, ben c'est bien de le savoir et de l'entendre, il faut être transparent et dans la vérité, c'est évidemment pas notre intention, mais pardon si on a eu des maladresses, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un bon ton. Moi, ce qui m'a marqué le plus, d'abord, j'étais impressionné par la bonne volonté de nos prêtres et de nos conseils pastoraux pour répondre très positivement à cette invitation. On était quand même quasiment 300 le matin. Il y avait une cinquantaine de prêtres. Et
combien de paroisses ont répondu ?
44 paroisses.
Sur 69.
Ouais, ce qui veut dire que c'est à peu près deux tiers, quand même, ce qui est quand même assez remarquable. Et pas mal de mouvements aussi, d'associations qui étaient là. Le parcours Cléophas, ils sont venus comme un seul homme, quasiment tous. Et donc, c'était quand même un bon moment. Et puis surtout, moi, ce qui m'a marqué... Outre, alors je l'ai dit d'ailleurs le soir, hein, je dis ma consolation, qui correspond à une conviction évidemment que j'ai depuis longtemps, c'est que l'Église, ce n'est pas d'abord l'affaire de l'évêque et des curés, c'est l'affaire des laïcs, parce que nous sommes tous co-responsables de la mission de l'Église, c'est-à-dire qui est de proclamer l'Évangile. Chacun, ben, dans sa manière, on n'est pas interchangeable, on n'a pas de confusion, mais... Et toute cette journée, elle a été animée par des laïcs, en plus par des femmes. Donc j'ai trouvé que c'était un beau signe prophétique aussi de l'engagement de tous dans ce qu'on appelle, mais moi je reprends les termes de Pape François, hein, de la conversion missionnaire pastorale, pastorale et missionnaire.
Vous avez évoqué les cinq essentiels. Est-ce qu'on peut juste dire de quoi il s'agit ?
Alors, je ne pourrais pas faire les gestes là, hein, parce que je ne suis pas filmé. Mais les cinq essentiels, ben, c'est la prière, c'est la formation, c'est la fraternité, c'est le service et c'est l'évangélisation. En gros, à la réunion du conseil épiscopal élargi aux doyens, un doyen a dit « Oui, mais avec mon conseil épiscopal, on était un peu surpris de parler de cinq essentiels, parce que jusqu'à présent, on est habitué à parler des trois dimensions de la mission, annoncer, célébrer, servir. » Alors je dis « Mais c'est pas incompatible. Là, il s'agit des cinq essentiels qui sont tirés pas du chapeau de quelqu'un qui a lancé une mode, mais comme ça t'est très bien montré au cours de cette soirée, c'est dans les paroles de Jésus, c'est dans la description de la communauté primitive, et moi j'ajouterais, c'est aussi dans la grande exhortation apostolique pour les laïcs, qui est Christi Fides Laici de Saint Jean-Paul II. Mais c'est la vie, les cinq essentiels qui déterminent la vie et la mission de l'Église. La mission annoncer, célébrer, servir, ben c'est dans prier, servir, évangéliser. Mais c'est aussi la vie de l'Église qui est source de la mission, c'est-à-dire la fraternité et la formation. Et tout ça est un complément, si vous voulez, hein, c'est pas du tout exclusif.
Alors, au-delà du format et de la proposition, est-ce que cette journée n'a pas eu le mérite finalement, c'est peut-être un peu ce qui manquait, de rassembler les prêtres et les laïcs qui sont engagés dans la mission dans les paroisses, de les faire se retrouver, parce que je crois qu'il y a eu quand même vraiment une fraternité.
C'est ça, moi qui m'a... Je suis content que tu le dises, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a marqué le plus, moi aussi, c'est cette espèce de fraternité. Et en plus, on était, j'allais dire, à égalité de dignité. Hein, moi, je me suis trouvé avec quand les signes de reconnaissance au début, je me suis trouvé avec un laïc agriculteur d'Istüritz. Et on s'est trouvés tous les deux et on s'est partagé chacun une joie. Et à un moment, je lui dis, ben voilà, moi, ce qui me marque, c'est que, vous voyez, moi, je suis l'évêque, vous êtes un fidèle diocèse, mais on est tous les deux des frères, quoi. Et j'ai senti que cette réalité n'était pas artificielle. On s'est retrouvé à égalité. Moi, je suis allé ensuite avec un laïc faire de l'évangélisation comme les autres, quoi. Et tout en étant l'évêque, mais qu'importe. La question, c'était de se dire, il y a un fond commun, chacun. Moi, je suis l'évêque, c'est entendu. C'est ma grâce et c'est ma mission dans l'Église. Mais on est une grande fraternité appelée à annoncer l'Évangile.
On est tous dans le même bateau, j'allais pas dire la même galère, mais...
Oui, on est dans le même bateau. Et puis, il y a une espèce de dynamique à partir de cette fraternité. Je crois que tous les petits exercices qui nous ont été faits, qui pourraient paraître pour certains, voilà, ensuite chacun, c'est normal ça, hein. Mais n'empêche que ça a eu pour effet de nous obliger à être vrais avec d'autres, des gens qu'on ne connaît pas, mais on est tous unis par la même grâce du baptême et le même désir de témoigner, chacun à sa manière, de l'Évangile autour de soi, quoi.
Quelle serait la suite de cette journée ?
Alors évidemment, il faut qu'il y ait une suite, parce que on a fait une expérience intense, on a fait l'expérience des cinq essentiels à toute vitesse. Maintenant, le but, c'était aussi qu'il y avait une séquence d'ailleurs dans la cathédrale, vers la fin de la journée, où les conseillers pastoraux avec leur curé étaient appelés à se retrouver, quand ils n'avaient pas été obligés de repartir pour les messes du soir, etc., mais qu'importe, se dire bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans notre paroisse ? Qu'est-ce qu'on va essayer de mieux vivre ? Chacun, alors du coup, dans son contexte, chacun avec sa sensibilité, parce que là, c'est vrai que le format était un peu typé. C'était le format des parcours alpha, c'est le format un peu
c'est
renouveau.
C'est charismatique, oui.
Voilà, du renouveau. Mais c'est un don qui est fait à l'Église, dont on profite, mais on n'est pas obligé de devenir pour autant charismatique, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que chacun dans son contexte, dans sa paroisse, avec ses défis, va se dire, bah, tiens, vous faites ces cinq essentiels, comment on les met en œuvre ? Et est-ce qu'il y en a un sur lequel il faut qu'on insiste davantage pour que le tonneau, les lattes soient égalité, quoi, hein, comme ça nous a été montré au cours de cette journée de manière très, très pédagogique. Voilà. Et avec un rendez-vous, le 30 mai, veille de Pentecôte, encore une fois à Bayonne, où on revivra ces cinq essentiels d'une autre manière, selon un autre format.
Donc pour diocèse en fête, c'est ça ?
Pour diocèse en fête, voilà, donc la veille de Pentecôte, où toutes les paroisses apporteront leur propre expérience. On essaiera de voir comment on le fera de manière à la fois pédagogique et dynamique. Et ça se terminera par la messe en fin d'après-midi, enfin dans l'après-midi, avec la confirmation des adultes du diocèse, donc veille de Pentecôte, messe de vigile de Pentecôte.
Monseigneur Ayé, ce sera l'occasion, peut-être pendant ce temps de l'Avent, dans les paroisses, de mettre en œuvre cette conversion pastorale demandée par l'Évangile et par notre diocèse. Merci, Monseigneur Ayé, et merci, Violaine Ricroluma.